Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, une série incandescente sur Arte et notre sélection dans les sorties cinéma. Ben oui, demain c'est mercredi. Notre infomédia, c'est une institution dans le milieu des médias, la revue professionnelle Satellifax, un peu la bible du métier, fête ses 25 ans. Et nous recevrons Joël Virstel, son fondateur et directeur de la publication, autant dire Dieu le Père. Puis nos invités, Marianne James, pour La France a un incroyable talent, la saison 14 a cartonné. David Ginola a été poussé vers la sortie, Karine Le Marchand est arrivée. Et la 15e saison démarre ce soir sur M6. Il y a un petit nouveau dans l'émission, Pierre-Antoine Damcourt, il sera avec nous lui aussi. Et puis le plus belge des Siciliens, Frédéric François, qui revient avec une triple actualité, un Olympia, un nouvel album et une tournée européenne. Il lui rend en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino, dont le papa est le sosie de Frédéric François. Je dis ça, je dis rien. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, le sommaire du jour.
Le cinéma ne sait plus sur quel pied danser. La Chine chip aux États-Unis la place de premier. Le Made in France fait sa télé et les micros de Biden et Trump seront coupés.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
C'est M6 qui est en tête, d'une courte tête, avec la suite de L'amour est dans le pré saison 15. L'émission a repris des couleurs sur une semaine. 3,8 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 16,6% du public. Comme chaque semaine, M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, à 22,3% de part d'audience. TF1 est juste derrière, avec un nouvel épisode de Joséphine Ange Gardien. Mimi Mathieu et Tatiana Silva ont séduit en moyenne 3,8 millions de téléspectateurs pour 16,2% de part d'audience. C'est mieux que le dernier inédit de la série qui avait été diffusé il y a un an. Et enfin, c'est France 2 qui complète le top 3 avec une déprogrammation de dernière minute en raison de l'actualité. La chaîne a diffusé hier soir le film Les Héritiers avec Ariane Ascaride qui incarne une prof de lycée qui fait participer ses élèves au concours national de la résistance et de la déportation. Au compteur, 2,4 millions de téléspectateurs et 10% de part d'audience.
Culture Média.
Et on commence ce journal avec le dilemme des distributeurs de films.
On en parle depuis la rentrée dans le journal. La plupart des blockbusters américains attendus d'ici la fin de l'année ont vu leur sortie repoussée à 2021. Mais les films français et certains petits films étrangers ont tenu bon. Certains ont même rencontré un joli succès, comme Antoinette dans Les Cévennes par exemple. Mais ça, c'était avant l'annonce du couvre-feu. Car qui dit interdiction de sortir après 21h dans les grandes métropoles françaises, dit impossibilité de se rendre dans les salles obscures le soir. Les cinémas ont adapté leurs horaires, mais ça ne résout pas tout. Du coup, les distributeurs sont tiraillés entre la volonté de soutenir les exploitants et donc de maintenir la sortie de leurs films et la nécessité que leurs films trouvent leur public.
Donc, au final, certains films vont sortir comme prévu et d'autres non.
Voilà, absolument. Hier, après un suspense qui a duré tout le week-end, on a eu confirmation que le nouveau film d'Albert Dupontel, Adieu les cons avec Virginie Efira, sortirait bien ce mercredi 21 octobre comme prévu. Selon Le Parisien, les chiffres de fréquentation encourageants du week-end y sont pour quelque chose. Le film Miss a même vu sa sortie avancée à ce mercredi, tandis que celle du film d'horreur coréen Peninsula, la suite très attendue du dernier Train pour Busan, a été maintenue elle aussi au 21 octobre. Aline de et avec Valérie Lemercier devrait pour sa part sortir comme prévu le 11 novembre prochain. En revanche, Alexandre Astier a annoncé hier que les fans de Kaamelott devraient attendre pour découvrir le film qui était attendu le 25 novembre et dont la sortie a été décalée à une date inconnue. Le premier film de Laurent Lafitte, L'Origine du Monde, qui devait débarquer dans les salles le 4 novembre prochain, a pour sa part été repoussé à février 2021.
Cinéma toujours, mais cette fois on va parler de la Chine. La Chine qui vient de devenir le premier marché mondial.
L'hégémonie américaine est terminée. Depuis les débuts du cinéma, le marché nord-américain était le plus important dans le monde en termes de recettes. Mais la pandémie est passée par là et elle n'a pas touché tous les pays de la même façon. En Chine, des dizaines de milliers de salles ont rouvert il y a plusieurs mois déjà et les spectateurs n'ont pas longtemps hésité à y retourner. Résultat, ce week-end, les recettes de 2020 en Chine ont atteint 1,99 milliard de dollars, soit 50 millions de plus que les recettes américaines cette année.
On va dire 2 milliards et l'écart ne risque pas de se resserrer, Charles.
Bah non, parce que la situation aux États-Unis est diamétralement opposée à celle de la Chine. Les salles des grandes villes comme New York ou Los Angeles, qui sont les deux plus gros marchés du pays sont encore fermés et les Américains ne se sont pas montrés très enthousiastes à l'idée de retourner au cinéma. Et comme les gros films ne sortent pas, ils n'ont pas trop de raison de s'y ruer. Alors à titre de comparaison, en 2019, les recettes du box-office américain s'étaient élevées à 11,4 milliards de dollars et la Chine était à l'époque loin derrière à 9,2 milliards.
On passe du Made in China au Made in France. Public Sénat va mettre en avant les réussites françaises dans une nouvelle émission baptisée Cocorico.
Ça commence ce soir à 22h, c'est animé par Yves Jégot, c'est un homme politique qui avait notamment été secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer à la fin des années 2000. C'est un format de 28 minutes. Chaque mois, Yves Jégot présentera deux entreprises françaises pour montrer ce qu'on voit peu à la télévision. C'est vrai qu'on ne compte plus les reportages ou les émissions sur les agriculteurs ou les artisans, par exemple, mais on voit rarement les usines où on produit les objets du quotidien. Yves Jégot a expliqué à Louise Bernard pourquoi il était si important de proposer une émission comme Cocorico en 2020.
Je pense que le Made in France et la crise de la Covid a révélé combien il était important de pouvoir encore savoir faire des masques, des respirateurs. On a vu combien la perte de notre souveraineté industrielle était douloureuse dans le moment de cette crise, qu'il y a une vraie envie de retour vers le Made in France des consommateurs. C'est écolo d'acheter français parce que c'est un circuit court, le Made in France. Le produit Made in France, il n'a pas fait 10 000 km avant de venir là où il est vendu. Donc je pense qu'il y a ce renouveau du Made in France, mais que derrière, il faut aussi montrer les hommes, les femmes, les entrepreneurs, les ingénieurs, les ouvriers qui fabriquent et que les usines ne sont pas des lieux interdits ou des lieux maudits et qu'au contraire, on doit être fier de la France des usines. C'est vraiment une émission de la fierté industrielle pour montrer qu'il y a des hommes et des femmes qui au quotidien se battent pour qu'on continue de produire en France.
Une émission présentée par un ancien homme politique, ce n'est pas si fréquent que ça. On a demandé à Yves Jégot comment s'était opérée cette transition.
La vie politique que j'ai embrassée pendant de nombreuses années, c'est à la fois agir pour améliorer la vie des gens, mais c'est aussi expliquer. C'est de la pédagogie, c'est quelque part de la médiatisation de l'action publique. La politique mène à tout à condition d'en sortir. C'est ce que j'ai voulu incarner en quittant de moi-même l'Assemblée nationale dont j'étais vice-président il y a maintenant 2 ans. Pour me mettre au service des entreprises du Made in France. Et puis, si j'ose dire, effectivement, présenter les choses, interviewer, montrer ces entrepreneurs, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, les téléspectateurs nous diront ils sont aussi passionnés que je le suis, mais c'est une reconversion heureuse.
Au programme de la première émission, une usine créée sous le Second Empire qui fabrique des casseroles et des poêles et qui les exporte dans le monde entier, mais aussi une usine de bus installée en Ardèche. Rendez-vous sur Public Sénat dès 22h.
C'est un de nos feuilletons préférés et il continue. Le deuxième et dernier débat entre Donald Trump et Joe Biden aura lieu ce jeudi.
Et la commission en charge de l'organisation du débat a tranché. Les micros seront bel et bien partiellement coupés pendant l'émission. Il y a 15 jours, le président américain n'avait pas du tout respecté son temps de parole et il avait empêché Joe Biden de s'exprimer. Au point de voir le démocrate s'emporter.
I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
Voilà, will you shut up, man? Est-ce que vous voulez bien la fermer? Alors, pour éviter que ça se reproduise, les règles vont changer. Chaque candidat aura droit à 2 minutes de temps de parole sans interruption au début de chacun des segments de 15 minutes qui composeront le débat. Le micro de l'autre candidat sera coupé, puis rouvert au bout des 2 minutes pour permettre le débat. Dans un communiqué, l'équipe de campagne de Donald Trump a assuré que le président avait l'intention de débattre malgré, je cite, les changements de règles de dernière minute mis en place par la commission partiale qui cherche à avantager son candidat préféré. On reconnaît bien le style de la campagne de Trump. Le président a hâte de forcer Joe Biden, je continue la citation, à répondre à la question que tout le monde se pose. Travaille-t-il oui ou non pour le parti communiste chinois?
Ah vraiment, on se l'a posé encore voilà. Ce matin à la machine à café. Et puis on termine ce journal avec 2 annonces de Netflix.
Alors la première, c'est la commande d'un télécrochet consacré au hip-hop français. Le service de streaming va adapter son format américain Rhythm and Flow qu'il a lancé fin 2019. Il s'agit d'un concours de rap dans lequel Cardi B, Chance the Rapper et T.I. avaient pour mission de dénicher la relève du rap américain au fil de 10 épisodes. Pour la version française, Netflix a officialisé son jury, la Belge Shay et les Français Niska et SCH. 8 épisodes ont été commandés et les 3 artistes partiront dans leur ville natale pour tenter de trouver la nouvelle star du hip-hop. Comme dans The Voice, ils ne seront pas simples jurés mais aussi coachs et d'autres autres artistes devraient intervenir au fil du processus de sélection. À la clé, dans la version américaine, pas de contrat en maison de disques, mais un joli chèque de $250,000. Netflix n'a pas encore officialisé la récompense pour la version française. La diffusion est prévue en 2021.
Et la deuxième annonce de Netflix ?
Alors là, c'est une moins bonne nouvelle, c'est celle de l'arrêt de la série Away après une seule saison. Elle avait été lancée il y a 6 semaines seulement. Si vous ne connaissez pas Away, c'est l'histoire d'une équipe d'astronautes qui a pour objectif d'atteindre Mars. Cette équipe est emmenée par une femme, incarnée à l'écran, par l'actrice doublement oscarisée Hilary Swank. Alors la nouvelle est un peu surprenante parce que Away s'était hissé parmi les séries les plus regardées aux États-Unis sur Netflix à sa sortie et que le public n'a pas encore eu beaucoup de temps pour la découvrir. Mais il faut dire aussi que les critiques ne se sont pas montrées particulièrement enthousiastes et on imagine aussi que le coût de production est assez élevé. C'est le site spécialisé Deadline qui a annoncé l'annulation de la série. Pour l'heure, Netflix n'a donné aucune explication à sa décision.
Et à noter que Salto, vous en avez beaucoup parlé, le Netflix à la française se lance aujourd'hui. Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias. Dans un instant, notre info média du jour, un anniversaire, les 25 ans, le quart de siècle du quotidien de l'audiovisuel et du cinéma Satellifax, une sorte d'institution. On sera avec Joël Virstel, fondateur et directeur de Satellifax. À tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
L'info média du jour concerne une sorte d'institution chez les pros de l'audiovisuel, Satellifax, le premier quotidien de l'audiovisuel et du cinéma, fête cette semaine ses 25 ans d'existence. Il a été créé sur le Minitel, Défense de Rire, puis envoyé au début par fax à ses abonnés. Et ce média est devenu un journal à part entière, considéré comme une bible du secteur, pour annoncer en direct et souvent en avance à ses lecteurs, très informés, ce qui se passe dans le milieu de la télé, du cinéma, des festivals et de la culture en général. Un outil indispensable qui a un coût. L'abonnement annuel s'élève à plusieurs milliers d'euros, autour de 4 500. Et pourtant, malgré une économie, hélas, je ne vous apprends rien en chute libre, ça marche. Oui, mais comment ? Bonjour Joël Virstel.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes le fondateur et directeur de Satellifax. Satellifax qui sort chaque matin à 6h. Qu'y a-t-il au sommaire de votre numéro d'aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est un numéro qui est partiellement consacré à notre anniversaire, nos 25 ans, comme vous le mentionniez. On s'est amusé à reprendre les tout premiers numéros de Satellifax, donc ceux parus en octobre 1995 et en faire le fac-similé. Et sinon, sur le plan de l'actualité, c'est l'actualité qu'on connaît actuellement, donc la crise du cinéma. On parle de la médiatrice du cinéma et de ses recommandations sur le couvre-feu, les engagements de programme, les départs à France Télévisions. Et puis on a aussi souvent des petites informations qui nous sont exclusives. C'était le cas hier, par exemple, d'une fiction de prime time pour M6 avec Golden Network. Freak est condamné en appel à payer quelques centaines de milliers d'euros à BFM TV, RMC Découverte, etc.
Ils vont être contents de vous entendre. France Télévisions, 841 départs actés au 21 septembre 2020, ce que vous annoncez. Et alors moi j'ai appris deux choses, parce qu'il y a un feuilleton aussi qui excite beaucoup le monde de la télé, puisque c'est le nerf de la guerre, l'argent et la grosse caillasse. C'est dans le conflit Mediapro et la Ligue Foot Professionnelle, les clubs français ont validé le prêt de 112 millions d'euros souscrit par la Ligue. Je ne le savais pas avant d'avoir lu Satellifax de ce matin.
Juste sur Mediapro également, dans Satellifax de ce matin, on apprend qu'il y a une conférence de presse de Mediapro qui aura lieu demain à 10h45. Et voilà, fin du suspense, continuation du suspense, que va-t-il se passer ?
Et vous savez ce qu'ils vont annoncer ou pas du tout ? Parce que vous êtes toujours informé à l'avance.
Oui, c'est vrai, mais c'est pas tellement le jeu de Satellifax.
Ah bon ?
Évidemment, on parle d'informations en avance, mais on cherche surtout à informer les professionnels sur tout ce qu'ils ont besoin de savoir avant de commencer la journée. Donc on va les informer sur les projets de loi, on va les informer sur les futurs programmes, etc. Notre credo, c'est plus de faire un tour d'horizon exhaustif de l'actualité et de l'actualité institutionnelle. Et puis après, si on a des petites infos en avance, c'est un plus, mais c'est systématiquement ce qu'on cherche.
Vous en avez quand même, parce que quand votre nom arrive dans le grand public, c'est parce qu'on dit selon une info, selon une indiscrétion de Satellifax. C'est quoi les plus grosses coupes que vous ayez sorties en 25 ans ?
Oh là là, c'est difficile.
Comme ça qu'ils vous revient en mémoire.
Non, j'ai pas de scoop, mais on annonce souvent des tournages de films en avance. On annonce des lois qui vont être qui sont discutées et qui prennent le pas sur, d'autres règles.
Je ne me souviens plus qui. Il y a des gens qui ont appris qu'ils étaient virés dans cet Halifax.
Absolument. Ce je ne citerai pas un nom, mais effectivement.
Ce qui est toujours très très agréable.
Ou un patron qui apprend que la personne qui l'emploie par ailleurs. Ça, c'est arrivé. Et je pourrais citer des noms, mais je ne vais pas le faire.
Vous publiez entre 30 et 50 articles par jour. Vous êtes combien de journalistes ?
Alors, on est deux journalistes. Je voulais surtout citer Yvan Dréan, qui est la rédactrice en chef de cet Halifax et qui est à mes côtés depuis près de 19 ans et qui fait un travail formidable avec la rédaction donc de 12 journalistes aujourd'hui.
Alors, ça parle peut-être pas au grand public, mais en gros, un hebdo, il faut une cinquantaine de journalistes. Comment vous faites pour sortir un quotidien avec seulement 12 personnes ?
Alors, c'est effectivement 12 personnes, d'une part, qui travaillent beaucoup, et puis c'est une manière de travailler qui est finalement aussi en coopération avec nos lecteurs qui nous font confiance. Donc, si on a besoin d'avoir une information, on sait toujours qui on va appeler et les personnes vont nous répondre.
Et parfois, inversement, ce sont eux qui vous appellent pour une annonce à faire.
C'est parfois eux qui nous appellent pour une annonce à faire. Mais en tout cas, l'important, c'est qu'on soit capable toujours de vérifier, de valider l'information et de fournir une information fiable à nos lecteurs. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 25 ans.
Depuis 25 ans, un quart de siècle, Joël Virstel, vous étiez directeur, si je suis bien informé, de l'exportation dans une société d'ustensiles ménagers non électriques, c'est ça ?
Je m'amuse à dire que je vendais des petites cuillères, ce qui est un petit peu ça.
Ouais. Des louches, des couteaux, des ouvre-boîtes. Comment vous êtes devenu un spécialiste des médias ?
Alors, j'étais pas du tout journaliste à la base, par passion pour ce domaine de la télévision par satellite au départ. Je m'étais fait installer en plein milieu de Paris, face à la mairie du 4e, une antenne énorme d'1,20 m pour regarder les programmes et pouvoir en parler. Et puis, j'ai créé un serveur Minitel avec l'aide, à mes tout débuts, de Serge Surpin, qui avait un magasin de matériel satellite. On avait fait une coopération. Ouais. Et puis au début, dans la journée, je travaillais chez Serge Surpin. Après donc les petites cuillères, je travaillais chez Serge Surpin en tant que directeur commercial de son magasin. Et le soir, je faisais cet Halifax. Donc pendant les premières années, j'étais tout seul pour tout faire. Et aujourd'hui, il y a cette formidable équipe de 12 journalistes autour de moi.
Vous restez avec nous, Joël Virstel. On va continuer à parler de cet Halifax et de son modèle économique. A tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de Joël Virstel, fondateur et directeur de Cet Halifax, qui fête Cet Halifax aujourd'hui, enfin cette semaine, ses 25 ans d'existence. Alors, quasiment tous les journalistes médias vous connaissent en France, Joël Virstel, puisque quand il y a une conférence de presse d'une radio, d'un journal, d'une télé, vous êtes le premier à poser la question. Toujours vous levez, vous dites Joël Virstel, Cet Halifax. D'abord une question banale. On dit, tiens, dis donc, c'est un peu raplatouille cette question. Et la deuxième, terrible, bing, le backlash, la question qui embarrasse l'interlocuteur. Comment est venue cette tradition et pourquoi vous lancez tout le temps le premier ?
Alors, c'était une vraie stratégie au départ. Cet Halifax, ça ne voulait rien dire à personne. Et je voulais me faire connaître dans les conférences de presse. Et donc, effectivement, je posais cette première question.
Et comme ça, vous voyez, vous savez qui utilise cette stratégie ? En Formule 1, la plus mauvaise écurie, elle démarre tout le temps en premier. Comme ça, elle est sûre de passer à l'image dans les essais.
C'est à peu près la même stratégie. Et puis après, c'est devenu un petit clin d'œil. Évidemment, je ne prépare jamais une question, mais il m'en vient naturellement. Et puis, voilà, c'est un clin d'œil. Voilà. Un clin d'œil aujourd'hui.
Mais comment les collègues vous laissent parler en premier ?
Souvent, ils s'en amusent. Il y a eu parfois une bronca de collègues souriants qui se sont levés tous ensemble. On dit « Joël Virstel, Cet Halifax ». Évidemment, tout le monde a éclaté de rire. Non. Si quelqu'un veut vraiment parler, évidemment, je le laisse largement passer.
Alors, on va parler d'argent parce que ça compte. Le chiffre est secret, mais selon nos informations, on ne sait pas trop. Quoique si on peut le trouver, c'est 4 590 € par an, hors taxe. Il faut ajouter 2,10% de TVA. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix ? Parce que 4 590 €, il faut les sortir chaque année.
Alors, la lettre est destinée aux professionnels. Donc, effectivement, on leur fournit tous les jours. l'information dont ils ont besoin, l'information qui leur est utile pour passer une journée dans laquelle, lorsqu'ils vont avoir un déjeuner, ils connaîtront tous les sujets du moment. On fait gagner énormément de temps aux professionnels, on leur apporte des infos dont ils ont besoin, on leur apporte des idées de prospection, des idées sur l'environnement, des idées internationales.
Alors, mais qui paye un tel tarif et combien vous avez d'abonnés ?
Alors, on parle plus en nombre de lecteurs qu'en nombre d'abonnés. On estime qu'on a entre 10 et 12 000 lecteurs chaque jour. Donc, on a des sociétés qui sont abonnées et souvent, c'est un abonnement global, une licence de site où chacun peut lire Satellifax. Donc, on a une représentation dans la plupart chez la plupart des éditeurs, des distributeurs, des producteurs, c'est extrêmement, extrêmement large.
Alors on va essayer de comparer ce qui est un peu comparable.
Je voulais juste signaler qu'on a également une lettre gratuite des titres de Satellifax avec 7 ou 8 articles gratuits. Donc il suffit d'aller sur le site pour s'inscrire et les recevoir chaque matin.
Le film français, qui est un hebdomadaire qui est réservé aux pros du cinéma et de la télé, coûte 490€ par an et il compte 8000 abonnés. Donc vous en avez forcément moins.
Évidemment. Oui, on en a beaucoup
moins. Mais vous ne donnez pas le chiffre.
Non, je ne donne pas le chiffre.
Je vais vous dire pourquoi c'est très intéressant cette question. Parce que quand vous rencontrez, par exemple, je ne trouve plus son nom, Raoul Merourès, le patron de Mediapro, oui. vous essayez de savoir combien d'abonnés il a, mais vous ne voulez pas dire combien d'abonnés vous avez.
On n'a pas le même modèle. Moi, je suis.
Ah, ça ne m'avait pas échappé.
C'est une toute petite, une petite société. Je suis le seul actionnaire. Il n'y a pas d'intérêt à communiquer nos informations à l'extérieur.
Il y a de la pub ?
Il y a extrêmement peu de pubs.
Là, il y a une pub. Dans le numéro d'aujourd'hui, il y a une pub pour Canal+, sa série La Flamme, avec Jonathan Cohen qui fait le malin.
Alors, c'est plus qu'une pub. C'est une marque de confiance que nous ont fait une 25 groupes tout au long de cette semaine qui ont acheté de l'espace dans le Satellifax pour nous souhaiter bon anniversaire. Effectivement, il y a une pleine page dans le Satellifax d'hier de Canal+, où Jonathan Cohen nous dit « Bon anniversaire Satellifax, on vous allume les bougies ». Et puis, évidemment, avec la photo de la série création originale « La Flamme », on saura l'allumer.
Il coûte combien le gâteau ? Il fallait payer combien pour avoir droit à sa pub dans Satellifax ?
Ça se compte en quelques milliers d'euros.
D'accord, quelques milliers d'euros. Pour les 25 ans de Satellifax, vous avez laissé des cartes blanches à Gilles Pélisson, qui est le grand patron de TF1, Pierre-Antoine Capton, producteur, un des dirigeants du groupe audiovisuel Media One, qui est en train de devenir un géant mondial, ou encore Roch-Olivier Maistre, le président du CSA. Ils font partie de vos abonnés ?
Bien sûr, ils font partie de nos abonnés, ils nous font confiance et on leur a donné effectivement une carte blanche. Il y a autour de 25 à 30 dirigeants de l'audiovisuel qui vont s'exprimer sur le sujet qu'ils souhaitent.
Puisqu'on en parlait, est-ce que Raoul Merourès, le patron de Mediapro, fait partie de vos abonnés ?
Oui, bien sûr. À la fois en Espagne, dès le départ, et depuis qu'ils ont fait une filiale française, que Julien Bergeau, qui sont abonnés à Satellifax et qui nous lisent tous les jours.
Et comment vous faites pour avoir des rapports privilégiés avec eux, par exemple, puisque ce sont des nouveaux entrants, ils sont espagnols, ils ont des capitaux chinois, et vous n'avez pas pu construire les relations de confiance que vous avez construites avec d'autres, par exemple ?
Si, on crée des relations de confiance, mais créer une relation de confiance ne veut pas dire que nécessairement on nous donnera des informations, on est comme l'ensemble des médias. Juste si on a, nous, de notre côté, une information, on sait à qui poser la question pour la vérifier. C'est ce thème de fiabilité que j'exposais tout à l'heure et qui est essentiel chez nous.
Il y a des gens avec qui vous êtes fâchés ?
Pas dont je me souvienne réellement.
Donc ça veut dire que vous êtes réconcilié, par exemple, avec Claude Berda ?
Effectivement, avec Claude Berin, je vois que vous avez appris des choses. Effectivement, il y a très très longtemps, on avait sorti. Je fais des tests dans Satellifax. Ouais. J'avais vu que le cryptage de XXL pouvait être contourné. Et j'ai eu un coup de téléphone de Claude Berin. Allô, Joël. Si je te croise dans la rue, je te conseille de changer de trottoir parce que je vais te casser la gueule, qu'il l'avait vraiment dit. Et après, c'est Claude Berda, et donc on s'est réconcilié.
Claude Berda, je le précise, qui est le B de AB Productions.
Absolument.
Avec Jean-Luc Azoulay. Merci Joey, merci Joël Virstel. Je rappelle que Satellifax est disponible sur abonnement et consultable gratuitement sur Internet, sur satellifax.com. Merci d'avoir été avec nous et joyeux 25 ans. Restez avec nous, on revient dans un instant avec nos invités Marianne James et Pierre-Antoine Damecourt. C'est la nouvelle saison de La France, un incroyable talent. Et La France a un incroyable talent, ça continue. C'est sur M6 ce soir et c'est sur Europe 1 dans quelques instants.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Marianne James.
Bonjour Philippe.
Ce soir, M6 lance la 15e saison de La France, un incroyable talent. La bande a été renouvelée à vos côtés comme depuis deux saisons. Les jurés sont toujours Eric Antoine, Hélène Ségara et Sugar Sammy, l'humoriste canadien. Mais il y a du nouveau à la présentation et aussi dans l'after. La France a un incroyable talent, ça continue. Bonjour Pierre-Antoine Damcourt.
Bonjour Philippe Bondel.
C'est vous le petit nouveau, vous avez pris la succession de Donald Jacksman, c'est ça, qui est parti sur France 2 présenter Surprise Surprise. Marianne James, à part la personne en face de vous, quoi de neuf dans l'émission ?
Ah, Karine Le Marchand.
Eh oui.
Et tous les candidats qui n'ont jamais performé devant du public.
Jamais.
La première fois qu'ils ont eu un vrai plateau digne de ce nom pour lancer du feu, danser, enfin faire tout ce qu'ils ont à faire, eh ben ils l'ont tous fait en confinement plus ou moins et ils ont découvert grand plateau et public, donc fraîcheur, spontanéité et plein de nouveautés.
Alors, vous l'avez dit, Karine Le Marchand à la présentation, ça démarre fort. Elle commence par raconter que l'émission a été reportée à cause du Covid. Et elle demande aux membres du jury comment ils ont vécu ce confinement. Ça commence par Sugar Sammy, il balance.
Comment tu l'as vécu, Sugar Sammy, cette histoire ?
Mais pourquoi demandons pas à Patient Zéro ? Parce que.
C'est beau la dénonce. Oui, oui, j'ai été malade, mais maintenant je.
On peut dire quand même que tu étais un malade asymptomatique.
Ah non, il avait un symptôme quand même.
J'avais un
symptôme.
Je sais pas si on peut dire en prime time que tu faisais caca mou.
Oui, je faisais caca mou.
Non, mais le problème, c'est qu'il a fait caca mou, mais qu'il n'avait pas perdu l'odorat.
Ah.
Non mais blague à part, on a osé repasser ça, on a osé le repasser. Blague à part, le patient zéro c'était Eric Antoine, vous avez eu peur, comment vous avez fait ?
Non, moi j'ai pas eu peur, on a appris, malheureusement le public était installé, nous allions y aller, ça y est, les crinières, les fossiles, le parfum sous les bras, ça y est, tout le monde était, ouais. Les ongles étaient prêts, et... patatras, hop, il y en a un de nous qui est positif.
Voilà. Et donc on arrête tout avec toute la
tout.
Prod lancée.
On a par une application qui s'appelle Zoom, on a le grand médecin, le grand ponte qui gère pour M6, Fremantle et tout ça, ben, les vrais protocoles sanitaires qui dit stop, on se calme. Non, vous n'allez pas tourner dans des pièces différentes, vous n'allez pas tourner du tout.
Waouh, ils
rentrez
ont dû être contents la prod, ça a coûté combien ?
Très 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 cher. Mais c'est la blague d'Éric Antoine qui dit toujours qu'il a eu le Covid le plus cher de la.
Bien sûr. Et est-ce que les assurances ont payé ? Parce que je le précise, ici on est une émission média, pardon, ce masque, il y a des mots qu'on n'arrive pas à dire, les M c'est dur à dire avec le masque. Et les assurances, Alexia Laroche-Joubert s'en plaignait, les assurances remboursent les films, il y a ce qu'on appelle une garantie de bonne fin, et il n'y a pas ça forcément dans les émissions de télé. Est-ce que les assurances sont remboursées de ce que vous savez ?
C'est vous le professionnel de tout ça, parce que moi je ne sais pas si M6 Fremantle avait
c'est
des
pas
assurances.
Nous. Non, moi je sais que les prestataires ont été sympas et compréhensifs, et par exemple, je crois que le Grand Théâtre de Rueil a mis à disposition une nouvelle fois ses locaux, gracieusement, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu une espèce d'entraide artistique, le matos est resté un peu sur place, tout ça, puisque voilà.
On a attendu qu'ils guérissent.
Ouais. Voilà.
Petite nouveauté, donc on l'a dit, Karine Le Marchand est arrivée.
Petite ? Grande nouveauté.
David Ginola est parti, ou plutôt il a été poussé dehors. On a appris ça le 1er juillet.
Non, je pense que c'est lui qui est parti.
Ah bon ?
Alors
écoutez, Pure Média et Le Parisien citent un cadre de M6 qui disent « L'aspect financier a pesé dans la balance, il était devenu hors de prix, David Ginola, d'autant que David se déplaçait avec 5 personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol, qui est un palace parisien. Est-ce que vous confirmez, est-ce que David Ginola habitait au Bristol ?
Ah ça j'en sais rien, moi je l'ai jamais rencontré au Bristol.
Hôtel Formule 1, Porte de Champéret.
Ouais, bon, Kyriade, on dit ça c'est
attends,
pour Noé Poisson.
Il faut en citer deux autres, hein, Campanile, Kyriade et Formule 1. Moi je suis jamais allé à l'hôtel Bristol pour le rencontrer, mais bon en tout cas un grand professionnel. Oh mais j'ai fait mais quand je suis qui partait, matou, super classe et tout. Et là au moins ce qu'il y a de chouette avec Karine, c'est qu'on peut pas comparer.
Ça c'est vrai.
Mais non. C'est totalement différent.
C'est quoi votre rôle dans l'émission, Pierre-Antoine Damcourt ? Comment vous êtes retrouvé à présenter l'after ?
Ça fait deux questions. Alors, petit coup de fil début août de la chaîne qui me dit « Écoute, Pierre-Antoine, est-ce que tu veux animer la deuxième partie de soirée ?» Et voilà, donc moi, je fais ma chronique qui s'appelle « La petite lucarne » sur la chaîne Équipe, tous les soirs, hop là, comme ça, c'est placé à 19h. Et je me suis dit que ça allait être compliqué de faire les deux. Et puis, en fait, on a trouvé des arrangements avec la chaîne, M6, tout ça. Et donc moi, le but du jeu, en fait, c'est d'aller dans les backstage, d'aller un peu enquiquiner le jury. Ouais. Oui, j'ai dit enquiquiner, on peut encore dire enquiquiner en 2020.
Et vous savez quoi ? Vous placez des trucs comme ça, mais nous, on l'a préparé avant ça. À quoi ça ressemble la petite lucarne, Pierre-Antoine Damecourt, dans ses œuvres.
On va commencer cette semaine avec Xavier. Bonjour Xavier, présentez-vous alors.
Bonjour à tous, je m'appelle Xavier, je suis atteint d'arbitrite aiguë depuis plus de 3 ans maintenant. Filet, faute 40-15, s'il vous plaît, les joueurs sont prêts, merci.
Allez, on va passer à Fabien maintenant. Fabien, comment ça va?
Yes, what an amazing day today in the Port d'Auteuil.
Il est en duplex, il est en train de...
It's a very Fabien. Good day for the player with a good match against Djokovic.
Alors Fabien, oui, Fabien.
Oui, c'est une très belle journée aujourd'hui à Roland Garros.
C'est bon, merci Fabien. Merci, c'est bon, merci.
Donc votre rôle, c'est d'apporter du rire.
Voilà, exactement. Là, c'était le cercle des addicts à Roland Garros. Et donc chaque jour dans la petite lucarne, c'est un peu de retourner le sport avec humour.
Mais dans la France, un incroyable talent, du rire, il y en a tout seul, qui est parfois apporté par la production. Est-ce que je me trompe? Parfois, il y a des gueules cassées quand même. Cyril, le Belge, oui, qui chante tout seul face à un micro sur fond de techno, ça donne ça.
Le respect, le respect, le respect, le respect, le respect, le respect, on communique dans le respect, le respect, le respect, le respect, le respect.
Marion Gels, quand vous le mettez, vous le mettez pour qu'on rigole.
Non,
vous pensez pas qu'il va gagner.
Non, je suis plus d'accord.
Il a un univers.
Allez-y.
Non, si on vous balançait 80 candidats exceptionnels, nous n'aurions pas autant de monde, il n'y aurait pas eu de 15e saison, il n'y aurait même pas eu de 2e saison. Incroyable talent, c'est les gens absolument inouïs et aussi inouïs dans leur inconscience de leur de ce qu'on appelle les what the fuck, c'est pas très joli en anglais.
On comprend bien,
c'est-à-dire des gens, on ne sait plus dans quelle catégorie les mettre. Est-ce que ce sont des escrocs, est-ce que ce sont des fous, des gens, lui ce Cyril, mais moi j'ai adoré, on lui a mis
moi aussi, et puis c'est quelque chose qui reste dans la tête, c'est un mec qui est chez lui, il faut pas
j'adore
croire.
Sa musique,
il fait ses musiques, il fait ses instrus chez lui tout seul, il bosse beaucoup et il était hyper content d'être venu et il a pas,
mais
et vous allez voir qu'il
le respect, mais je vous dis on le remixe, mais c'est le titre sur lequel vous allez danser tout cet hiver.
Vous restez avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Marianne James et Pierre-Antoine Damecourt, ils présentent La France, un incroyable talent. Et La France, un incroyable talent, ça continue. C'est l'after et ça redémarre ce soir. C'est la 15e saison sur M6. Alors, on parlait de ce chanteur belge un petit peu borderline. What the fuck, comme vous dites, il y a aussi des moments très très beaux, surprenants. Comme cette famille de Versailles, le papa, la maman, tous les enfants chantent, y compris le petit dernier, c'est spectaculaire. Il est monté sur un tabouret pour être à la hauteur. Écoutez.
Faire Neymar, tout ça, là.
Ça, c'est pour la fille de Karine Le Marchand. Ouais. Mais vous étiez très impressionnée. Ah,
ben oui, parce
Marianne
que
James.
J'ai bien compris que c'était une œuvre d'inspiration moyenâgeuse, mais on sentait aussi la modernité. Donc, ils ont choisi un compositeur d'aujourd'hui. Ça pourrait être la bande-son de Game of Thrones. Ça pourrait être, on imagine, la lande filmée d'hélicoptères, etc. Et ses voix incroyables, ancestrales, et en même temps, c'est fait devant vous. Et puis, ils ont l'air de beaucoup s'aimer. Les gamins n'ont pas l'air d'être tarés. Ils ont l'air même de beaucoup, beaucoup
non, mais
s'amuser.
Ce qui est frappant, j'ai pas compté, mais il y a le père, la mère et 6 enfants.
Et 6 enfants, ouais. 5 ou 6, ouais.
Ouais, du petit
et le
au
tout
plus grand.
Petit qui a cette voix de, ben, bien évidemment, d'ange. Et les parents qui n'ont pas écrasé leurs enfants, je ne sais pas comment vous dire, il y a une harmonie dans cette famille. Le papa est assez rigolard. On a beaucoup aimé ces gens, ouais, beaucoup.
Pierre-Antoine Damecourt, vous regardez ça depuis la coulisse. Vous étiez vraiment impressionné ou alors avec le stress du tournage, on ne réalise pas?
Moi, je les avais vus un petit peu avant, donc petite interview avec eux, savoir un peu comment ça se passe à la maison, comment ils bossent et tout. Et voilà, c'est tous les soirs, ça, ils répètent tout ça.
Bah,
et,
passe-moi et, oui, et le sel, c'est ça. Va te coucher, Gérard.
Exactement,
ouais,
c'est comme
ça à la maison.
Voilà, exactement. Et non, et donc moi, je les vois au répète le matin et après, quand je les vois en train de faire leur prestation, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'ils donnent encore plus qu'en répète, évidemment, et c'est hyper touchant. Ouais.
Alors là, on passe de la musique parce qu'on est à la radio et que visuellement, c'est plus difficile de passer des images, mais il y a évidemment tous les fondamentaux. Il y a de très beaux numéros d'acrobates ou de danseurs. En l'occurrence, là, il y a 3 frères qui sont gaulés comme sur le calendrier du rugbyman.
Non, je sors.
Torse nu. Marianne James, ne sortez pas, ils vous ont beaucoup plu.
Bien évidemment, vous avez joué sur la carte sexy à mort. Dans le sens que vous l'assumez. Le 4e frère qui était très vilain, vous ne l'avez pas montré.
Ça, c'est non papa qui est le 4e.
Je rigole du côté sexy, j'en fais des tonnes. Ok, on va encore peut-être me le reprocher.
Vous en faites des tonnes ou pas? Vous réfrénez ou vous en rajoutez? Parce que vous savez que c'est spectaculaire.
Alors, si on se réfrène, il ne faut pas aller devant une caméra. Ce n'est pas compliqué, vous devez être comme vous êtes dans la vie. C'est pour ça que ça fonctionne. Enfin, si vous fabriquez quelque chose, vous n'allez pas tenir la distance. Ouais. Il y a plein de caméras, il y a 30 caméras ouvertes. Soyez, dites ce que vous pensez, faites confiance aux gens de l'émission. Si ça déborde, ce n'est pas des directs, là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais les garçons, là, ils sont vraiment très, très, très sexy.
Elle a eu vraiment très, très chaud, Marianne.
C'est vrai. J'ai eu très, très, très chaud. Que... Je les ai trouvés. Ce n'est pas tant qu'ils ont viré leur chemise, les catogans avec leur ample, voluptueuse chevelure noire. Ce n'est pas des Suédois, hein, vous aurez compris. Hein. Ouais. Ils sont gaulés, mais ils sont
gaulés. J'ai vu l'émission, mais on voit les tablettes de choco.
Non, mais c'est surtout ce qu'ils font de leur corps après.
Comment ?
La prestation, le corps, là, oui, c'est sûr, pas des gogo danseurs.
Des ongles droits, c'est complètement
dingue.
Ou Mister
France, ils sont merveilleux, le numéro est merveilleux. Ils sont très proches. Ouais. Et j'aurais aimé personnellement être le tapis de sol. Hein, mais bon,
la phrase du jour, j'aurais aimé être leur tapis de sol.
Parce que vraiment, c'est, comment font-ils ?
Et vous n'aviez pas envie d'aller en coulisses avec Pierre-Antoine ?
Non, c'est interdit, j'ai un contrat qui me dit que...
Et voilà. Comment ça se passe en coulisses ? C'est quoi le but de l'émission ? Racontez le but de votre émission.
Alors moi, le but, c'est de choper tous les candidats pendant les répètes le matin, parce qu'ils passent tous, hein, tous les candidats répètent et c'est très millimétré, il y a toute l'équipe qui, voilà, ils règlent tous les trucs et tout, donc moi c'est de prendre un peu la température avec eux des candidats, et après c'est de les récupérer après leur prestation, comme le fait Karine, mais moi je vais un peu plus loin, on déconne ensemble, j'essaie de faire un peu ce qu'ils font, voilà, ils m'apprennent à chanter, ils m'apprennent à faire des choses et on embête un peu le jury.
Ça a marché
ouais,
on vous voit torse nu.
Alors oui,
vous n'êtes pas gaulé pareil.
Non, il y a eu un petit problème au niveau des barbecues cet été, donc voilà, donc là j'ai un peu abusé, mais je vais travailler.
Et alors, si on a raté les vannes de La France, un incroyable talent, vous avez fait un montage dans La France, un incroyable talent. Ça continue. C'est un extrait, Les Rois de la Vanne.
Heureusement que tous les garçons ne dansent pas comme ça, parce que sinon je n'aurais jamais pécho en soirée dans ma vie.
Oh, le fantasme, ils sont trop beaux, quoi.
Oh, c'est bien ça. On va perdre Marianne.
Ah non, mais là, je bande. Hein.
Si tu veux, on peut faire un truc.
Non, tu me dis pas ça.
À chaque fois que je vois ce ballon, je me dis, enfin, une capote à ma taille.
Il n'y avait rien de beau à voir, mais tu peux pas arrêter de regarder. C'est un peu comme L'amour est dans le pré.
Vous êtes contente de votre prestation ou pas du tout ?
Je m'entendais pas, en fait.
Chanceuse.
Elle chantait un peu n'importe comment. Allez, oh, dis donc, on dirait merci, la maman de Jeanne Masse, mais elle est dingue.
Mais merci à tous ces gens qui vous avez envie de leur lancer des pierres. Moi, j'ai envie de leur lancer des bisous et leur dire merci. Il n'y a pas d'incroyable talent s'il n'y a pas ce contraste entre les excellents et les borderline, comme vous dites, ceux qui sont à l'ouest. Ouais. Tant pis, ils viennent jusqu'à nous, ça fait le programme. Vous comprenez que c'est dans l'ADN du programme.
Mais j'ai bien compris. Vous faites quelque chose de presque suicidaire, en tout cas, qui peut cannibaliser dans votre émission, Pierre-Antoine. Vous montrez des numéros de, parce que c'est un format international, d'émissions d'autres pays. America's Got Talent, Suède, États-Unis, Grande-Bretagne, Italie. Vous n'avez pas peur ?
Non, parce que ça a toujours été le but un peu de La France, un incroyable talent, ça continue. C'est de montrer la galaxie Incroyable Talent, parce que c'est une émission qui est dans le monde entier. Ouais. Donc nous, on peut évidemment pas avoir les artistes en France, tous les artistes en France. Donc on en profite et on fait des magnétos pour montrer un peu les trucs hallucinants qui se passent en Inde, qui se passent au Japon.
Mais les Berry Wham, là, il y a deux ans, les Berry Wham, là, les beatboxers, là, qui font de la musique avec leur bouche et pas d'instruments que eux, bah ils ont été seconds dans le programme américain. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes français. Si nous accueillons les étrangers nous accueillent.
D'un mot, Pierre-Antoine Damecourt, vous continuez avec Estelle Denis dans l'équipe d'Estelle.
Bien sûr.
Voilà, vous y serez quand ?
Ce soir, 18h55 sur la chaîne Équipe. Et voilà, c'est avec un grand plaisir et on s'amuse beaucoup.
Et Marianne James, Tati Jambon ?
Et Tati Jambon, on passe
ça continue,
encore à
travers.
Ça continue parce qu'on joue beaucoup en matinée. Donc, on a une dizaine de concerts qui arrivent sur novembre-décembre. Ben, allez-y, venez voir, c'est chaud.
Voilà, et puis vous avez dit cette phrase que j'ai beaucoup aimée. J'assume de devenir la tata yo-yo moderne. Et on pense tous à Annie Cordy.
Mais ouais, je l'embrasse.
Merci d'avoir été avec nous, Marianne James. Merci Pierre-Antoine Damecourt. La France, hein, comme le talent, ça démarre ce soir sur M6, faut-il le rappeler ? Culture Média continue, le rappel des titres de 10h, ce sera donc dans quelques instants. Puis Eva Rock pour son zapping du lendemain. Bertrand Chameroy, avec qui vous avez travaillé pour son écran de veille. Excellent Bertrand Chameroy. Il a regardé l'interview de Gérard Depardieu sur Combini. Je ne vous dis que ça, déjà ça vous fait marrer. Ensuite, notre invité, c'est le chanteur Frédéric François pour son nouvel album La Liberté d'Aimer. Et puis dans les indispensables, une sélection de sorties ciné, puisque demain c'est mercredi. Et puis une nouvelle série très 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 intrigante. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.